Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Le sujet de ce soir dans notre étude du chaos charismatique est l'évangile de la santé, de la richesse et de la prospérité. Nous pouvons intituler ce message par une question. Dieu promet-il la santé et la richesse ? Quand j'étais en Union soviétique il y a quelques semaines, ils m'ont dit « Nous voulons que vous prêchiez sur l'évangile de la santé et de la prospérité. » Je parlais à des centaines de pasteurs. Et le pasteur, Dukarchenko, qui dirige l'église là-bas en Ukraine, a dit « J'aimerais que vous prêchiez sur l'évangile de la santé et de la prospérité. » J'ai dit « Vous n'êtes pas en train de me dire que c'est un problème ici. Comment est-ce qu'une personne quelconque pourrait aller en Union soviétique et promettre la prospérité aux gens ? Une nation entière dans la pauvreté. » Il a dit « C'est ici. » Récemment, à l'extérieur de Kiev, un homme est venu d'Amérique et a rassemblé les gens de la ville. Et il a dit qu'il représentait Jésus-Christ, et qu'il allait prêcher, et une grande foule de non-chrétiens est venue l'écouter. Il leur a promis que Dieu voulait qu'ils soient en bonne santé et riches, et il a dit que s'ils revenaient le soir suivant, la puissance de Dieu descendrait, et ils seraient tous guéris. Ils sont donc venus. Il a dit qu'une grande foule était venue, et que personne n'a été guéri. Ils ont craché sur l'homme. Ils ont craché sur l'homme. Le genre de promesses insensées qui sont faites, et qui ne peuvent pas être remplis, apportent un terrible reproche, au nom du Christ. Un des héritages les plus inhabituels de la Seconde Guerre mondiale est ce qu'on appelle les cultes cargo du Pacifique Sud. Quiconque vit en Australie ou en Nouvelle-Zélande en sait quelque chose. Plusieurs habitants des îles aborigènes, qui vont du nord de l'Australie jusqu'en Indonésie, ont été exposés à la civilisation moderne, pour la première fois à travers les forces armées alliées, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Les militaires américains en particulier utilisaient souvent ces îles lointaines du Pacifique Sud comme site d'atterrissage et de dépôt de ravitaillement. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent du scénario de la Deuxième Guerre mondiale, personnellement je n'en ai aucun souvenir parce que j'étais tout petit, mais j'ai lu et je sais ce qui s'est passé. Certains d'entre vous pourront se remémorer et d'autres se souviendront de leurs livres d'histoire et se rappelleront que nous étions sur tout le Pacifique Sud, sur les îles éloignées, avec nos pistes d'atterrissage et nos dépôts de ravitaillement, pour pouvoir garder nos hommes dans les airs, en particulier. Ainsi, quand les Américains et les Alliés venaient dans ces petites îles et rencontraient ces peuples aborigènes, ils arrivaient avec des cargaisons. Ils volaient à l'intérieur des îles, créaient ces pistes d'atterrissage pour pouvoir acheminer de plus grands équipements. Ils apportaient ensuite de grands entrepôts pleins de cargaisons. Et ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus, quand la guerre a pris fin. Les populations tribales n'avaient absolument aucune occasion d'apprendre les manières de faire de la civilisation. Cependant, pendant un bref moment, ils avaient vu la haute technologie de très près. Les avions cargo plongeaient dans le ciel. Ils atterrissaient, déposaient leurs charges utiles et décollaient. Les autochtones qui vivaient en forêt ont subitement vu des briquets qui produisaient instantanément du feu. Ils ont cru que c'était miraculeux. Ils ont vu de grands engins venir et renverser des arbres. Ils sont partis d'une situation où ils n'avaient même pas une roue et un chariot, à celle de voir une jeep, des armes modernes, des réfrigérateurs, des radios, des boîtes parlantes, des instruments de puissance, et plusieurs variétés de nourriture dans tout genre de boîtes de conserve et bocaux. Ils étaient fascinés par toutes ces choses, et ces populations tribales on conclut que les hommes blancs étaient des dieux. Quand la guerre est terminée et que les troupes se sont retirées, les autochtones ont bâti des sanctuaires aux dieux des cargaisons. Leurs tabernacles étaient des parfaites répliques des avions cargo, des tours de contrôle et des hangars pour avions. Ils les fabriquaient en bambou et en tissu tissé. Ces structures ressemblaient remarquablement aux tours de contrôle, aux hangars d'avions, ainsi qu'aux avions eux-mêmes. Ils n'étaient cependant pas fonctionnels. Il ne s'agissait que de sanctuaires ou de temples dédiés au dieu cargo. Dans certaines de ces îles lointaines aujourd'hui, les cultes cargo continuent de prospérer. Certaines ont personnifié tous les Américains comme étant une seule divinité, et ils appelaient cette divinité Tom Navy. Ils prient le Saint Cargo chaque fois qu'un avion passe par là. Ils vénèrent des reliques religieuses, comme les briquets Zippo, les caméras, les lunettes, les stylos à billes, les écrous et les boulons, etc. Bien que la civilisation ait commencé à pénétrer certaines de ces cultures, leur fascination pour les cargos n'a pas diminué. En effet, les missionnaires qui avaient été envoyés dans ces régions où les cultes cargo avaient fleuri ont d'abord été reçus chaleureusement, parce que les adorateurs du culte cargo voyaient leur venue, comme la seconde venue du dieu cargo. Ils recherchaient le cargo et non l'évangile. Et les missionnaires disaient qu'ils trouvaient difficile de pénétrer le matérialisme qui constitue l'essence des cultes cargo. Ces récentes années, le mouvement charismatique a conçu sa propre variante du culte cargo. Il est appelé le mouvement de la parole de foi, connu aussi comme le mouvement de la foi, connu comme la formule de la foi, la parole de la foi, l'hyperfoi, la confession positive, dis-le et proclame-le, l'enseignement de la santé, la richesse et de la prospérité, toutes ces appellations, cette subdivision du mouvement charismatique, écoutez, est aussi superstitieuse et matérialiste que les cultes cargo du Pacifique Sud. Les leaders de ce mouvement de la foi, qui sont Kenneth Hagin, Kenneth et Gloria Copeland, Robert Tilton, Fred Price et Charles Capps, promettent à chaque croyant la prospérité financière et une parfaite santé. D'après eux, rien de moins ne relève de la volonté de Dieu, et de nombreuses personnes continuent de le claironner. En fait, comme je l'ai appris la semaine passée, il y a eu une très grande convocation à l'église de Fred Price, qui épouse ce point de vue. Plusieurs personnes y ont participé, non seulement les charismatiques et les pentecôtistes, mais aussi un grand pasteur presbytérien de notre région. Ils étaient tous là. Les tentacules de ce genre de théologie sont allés très loin. Ils ont recherché l'approbation du courant principal, et ils ont bâti des relations avec des personnes qui, du fait de ces relations, ne seront pas capables de dire la vérité contre eux. Et ainsi la chose fleurit comme un feu de brousse. Bien sûr, cela interpelle les gens, parce qu'elle ne demande rien d'autre que la foi. Elle ne demande pas la sainteté, elle ne demande pas de dévotion ni de consécration, elle exige seulement la foi, et promet que si vous en avez assez, vous serez riche et en bonne santé. C'est un message populaire. Je suppose qu'on pourrait virtuellement dire que toute fausse religion qui n'ait jamais été engendrée par l'homme vénère un dieu dont la fonction est de pourvoir un certain cargo. Le fait que la religion humaine invente des dieux pour des raisons utilitaires, ils inventent des dieux qui leur donnent ce qu'ils désirent, ils inventent des divinités qui les servent au lieu du contraire. La théologie de la parole de foi a transformé la chrétienté en un système qui n'est pas différent des religions humaines les plus basses. C'est une forme de vaudou où Dieu peut être forcé, cajolé, manipulé, contrôlé et exploité pour les buts personnels du chrétien. J'ai reçu un courrier d'un enseignant extrémiste de la parole de foi nommé David Epley. Il y avait une brochure avec une barre de savon bénie pour la prière. Nous allons laver toute malchance, maladie, mauvaise fortune et malheur. Oui, cette mauvaise personne que vous voulez sortir de votre vie. Jésus a aidé un homme à laver la cécité de ses yeux. Je voudrais vous aider au sujet des sortilèges, les contrariétés, les problèmes conjugaux, l'amour, le bonheur et la joie, affirmait la brochure. Dans la brochure, il y avait des témoignages des personnes qui avaient été bénies par ce ministère. Les portes ouvertes pour un nouveau travail, dit l'un. Un rêve de 80 000 $ qui se réalise, dit un autre. Je ne pouvais pas me servir de mes mains pendant 12 ans, dit un autre encore. Aussi à l'intérieur, une lettre personnelle du pasteur, terminant par une page entière d'instructions sur comment utiliser le savon. Si vous l'utilisez bien, il vous apportera guérison et argent. Maintenant, après avoir lavé la pauvreté de vos mains, prenez le plus gros billet ou le plus large chèque que vous avez. Ce billet de $100, de $50 ou de $20, Tenez-le dans vos mains propres et dites, « Au nom de Jésus, je consacre ce don à l'œuvre de Dieu, et attendez-vous un retour miraculeux d'argent. » Et bien sûr, votre plus grand billet ou chèque doit être envoyé à David Epley. Le dernier paragraphe dit, et je cite, « Au travers de ce don de discernement, je vois quelqu'un envoyer une offrande de $25, et Dieu me montre un énorme chèque venant à lui dans les temps qui suivent. Je veux dire énorme, cela ressemble à plus de $1,000. Je sais que cela paraît étrange, mais vous me connaissez assez pour savoir que je dois obéir à Dieu quand il parle. J'attendrai votre réponse. » Franchement, cela résonne davantage comme de la magie noire. Certainement, un exemple outrageux comme plusieurs autres, mais il reflète un style qui est typique de presque tous les ministères de la parole de foi. Si c'était juste des techniques de vente, ce serait déjà assez mauvais. Je pense que je vous dirai honnêtement, je peux prendre le révérend Ike. Je veux prendre Ike parce que, je ne sais pas si vous savez qui il est, mais si vous ne le connaissez pas, ne vous en inquiétez pas. Mais je peux prendre révérend Ike parce qu'il utilise le même jeu, mais cela ne le rend pas chrétien. Ce qui corrompt de manière dévastatrice, c'est le fait de lier ce genre de mauvais jeu à Christ. Les enseignants de la parole de foi ont corrompu le cœur de la chrétienté du Nouveau Testament. Ils ont déplacé l'attention du croyant de la saine doctrine, l'adoration, le service, le sacrifice et le ministère pour la diriger vers des bénédictions physiques, financières et matérielles. Ces bénédictions sont le cargo que Dieu est supposé livrer à ceux qui connaissent et suivent la formule de la parole de foi. Les écrits sur la parole de foi, il y en a une myriade. On ne peut même pas tous les lire. J'en ai reçu un nouveau cette semaine, de quelqu'un qui m'a envoyé pour m'aider à voir la vérité. Il s'agit d'un livre épais, et il est question de tous ces enseignants de la parole de foi. Il y a toutes leurs photos sur la couverture. Il n'y a presque pas de fin à la prolifération de littérature. Mais de nombreux arbres meurent dans cette opération pour être utilisés comme de la pâte à papier. Les articles de la parole de foi portent des titres comme « Comment écrire son propre billet avec Dieu ?»« La piété est rentable. » »« Les lois de la prospérité. » »« Le pouvoir créatif de Dieu fonctionnera pour vous. » »« Relâchez la capacité de Dieu au travers de la prière. » »« La formule de Dieu pour le succès et la prospérité. » »« Le passe-partout de Dieu pour la prospérité. » Vivre dans la prospérité divine, et ainsi de suite. Dans la religion de la parole de foi, le croyant utilise Dieu alors que la vérité de la chrétienté biblique est que Dieu utilise le croyant. La théologie de la parole de foi voit le Saint-Esprit comme un pouvoir à mettre en action par le croyant, pour obtenir ce qu'il veut. La Bible enseigne toutefois que le Saint-Esprit est une personne qui rend le croyant capable de faire ce que Dieu veut. C'est absolument le contraire des Écritures. Plusieurs enseignants de la parole de foi affirment que Jésus est né de nouveau pour que nous devenions des petits dieux. Pourtant, les Écritures enseignent que Jésus est Dieu, et c'est nous qui devons naître de nouveau. Franchement, j'ai peu ou pas du tout de tolérance pour ces mensonges, ces distorsions de l'Écriture et ces fausses affirmations du mouvement de la foi. Je n'ai absolument aucune contrainte à parler de cette question, parce que je crois que je suis littéralement lié par mon obligation en tant que personne appelée à prêcher la vérité de Dieu, parce que cela défie tout ce que je sais être vrai au sujet des Écritures. Le mouvement ressemble de près aux sectes cupides, destructrices de l'Église primitive. Paul et les autres apôtres n'étaient pas accommodants, ni conciliants avec les faux docteurs qui propageaient de telles idées en leur temps. Ils les ont identifiés comme des faux docteurs et ont exhorté les chrétiens à les éviter. Paul avertit Timothée, par exemple, et je cite, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Paul traitait avec ceux qui pensaient que la piété était un ticket pour avoir de l'argent. Ensuite, Paul a dit à Timothée, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la destruction. » Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Ces cultes sont générés, sachez-le, par l'amour de l'argent. Ils développent une religion pour accommoder leurs envies. Jude a écrit aux avides de son temps, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Fin de citation. Il n'y a rien que je puisse dire qui soit aussi fort que ça, et c'est en dehors de la parole de Dieu. Pierre a écrit, « Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Pierre continue en disant, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux, et réservé aux injustes leur jugement, depuis longtemps, et leur destruction n'est pas endormie. » Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. Par vos dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Montrez-moi une personne qui prêche l'évangile de l'argent, le message de l'argent, le message de la richesse. Je vous montrerai une personne qui a été corrompue par l'amour de l'argent. C'est ce que Pierre dit. Paul a dit que la convoitise, c'est de l'idolâtrie, et Paul interdit de collaborer avec quiconque apporte un message d'immoralité ou de convoitise. Éphésiens 5, 5 à 7. Maintenant, la question est, à quel point est-ce que les enseignants modernes de la parole de foi ressemblent à ces avis de faux docteurs que les apôtres décrivent? Est-ce juste de considérer le mouvement comme hérétique, comme sous-chrétien? Eh bien, je voudrais que nous examinions cela et fassions des recherches. D'une certaine manière, j'hésite à qualifier le mouvement de la foi comme une secte, uniquement parce que ses frontières sont encore un peu floues. Plusieurs chrétiens sincères planent autour de la périphérie de l'enseignement de la parole de foi. Il ne s'agit pas d'une secte dotée de frontières clairement délimitées. Il est un peu amorphe, flotte d'une manière presque indéterminée, et se heurte à toutes sortes de groupes de chrétiens. Ainsi, d'un côté, nous ne pouvons pas dire que toutes les personnes qu'il touche soient sectaires, ni que tous les éléments qui le touchent soient sectaires. Il a une christologie déformée, c'est-à-dire une vision déformée du Christ. Il a une vision déformée de l'homme, une vue exaltée de l'homme. Il a une théologie bâtie sur les œuvres humaines. Il a un processus de sanctification qui justifie la cupidité. Il a la conviction qu'une nouvelle révélation issue du groupe est en train de révéler les secrets qui sont restés cachés à l'Église pendant des années. Il croit que les écrits humains extra-bibliques sont inspirés et font autorité, et il dispose d'une exclusivité qui oblige ses adhérents à fuir toute critique du mouvement. En fait, comme vous le savez, Benny Hinn a déclaré que si quelqu'un le critiquait, il allait se procurer une mitraillette du Saint-Esprit et lui faire sauter la tête. Sans quelque correction exacte dans les fondations doctrinales du mouvement, il deviendrait une secte clairement identifiable, si ce n'est déjà le cas. C'est certainement la chose la plus proche des sectes de cupidité de l'ère du Nouveau Testament que les apôtres ont catégoriquement qualifié d'hérésie. Maintenant, c'est un verdict sérieux, mais je pense qu'il existe de nombreuses preuves pour le soutenir. À quasiment chaque détour, le mouvement de la parole de foi a entaché, tordu, déformé, mal compris, corrompu, ou effacer les doctrines cruciales de la foi chrétienne. Permettez-moi de vous aider en examinant certaines d'entre elles. Tout d'abord, le mouvement de la parole de foi a le mauvais Dieu. Il a le mauvais Dieu. Je crois que c'est juste d'affirmer que le Dieu du mouvement de la parole de foi n'est pas le Dieu de la Bible. L'enseignement de la parole de foi, en effet, écoutez ceci, établit le chrétien individuellement. Êtes-vous prêt pour ceci? Au-dessus de Dieu, et transforme Dieu en Père Noël. Un génie ou un valet, qui est là pour faire tout ce que le croyant lui demande. Voyez-vous, les enseignants de la parole de foi sont leur propre autorité suprême. Kenneth Hagin, qui est un patriarche de ce mouvement, a écrit ce livret intitulé « How to write your own ticket with God ». Comment écrire votre propre billet avec Dieu? Il parle d'une vision dans laquelle il aurait vu Jésus et lui aurait dit, « Cher Seigneur, j'ai prêché deux sermons sur la femme qui a touché tes vêtements et qui a été guérie quand tu étais sur terre. J'ai reçu ces deux sermons par inspiration, je le cite. » Plus tard, il cite la réponse que Jésus lui aurait donnée. « Tu as raison, mon esprit, le Saint-Esprit, s'efforce de déposer un autre sermon dans ton esprit, mais tu n'as pas encore réussi à le saisir. Pendant que je suis là, je ferai ce que tu demanderas. Je te donnerai les grandes lignes de ce sermon. À présent, prends ton crayon et ton papier et note. » C'est ce que Jésus lui aurait dit. Hagin affirme avoir reçu plusieurs visions, ainsi que 8 visitations personnelles de Jésus. Hagin a écrit, je cite, « Le Seigneur lui-même m'a enseigné à propos de la prospérité. Je ne l'ai jamais lu dans un livre. Je l'ai reçu directement du ciel. » Cette affirmation est un mensonge, carrément. Je vous montrerai pourquoi un peu plus tard. Vous voyez, ils croient, ou ils veulent que tout le monde croie, que Dieu leur donne cette information. Comprenez-vous, bien-aimés, si on n'a pas un canon fermé, et si les Écritures ne se terminent pas avec le livre de l'Apocalypse, si on croit que Dieu continue de donner des révélations, il n'y a aucun moyen d'arrêter l'inondation. C'est tout le monde qui affirme que Dieu lui parle. Heureusement, pour les gens de la parole de la foi, Dieu leur dit exactement ce qu'ils veulent que Dieu leur dise. Ils ont créé Dieu à l'image qu'ils voudraient lui donner. Par exemple, ils n'ont aucun concept d'un Dieu souverain. Les Écritures disent dans le psaume 103:19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Cela veut simplement dire que Dieu est au contrôle de chaque personne et de chaque chose. Dieu est le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6:15. Dans les innombrables livres de la parole de foi que j'ai lus, je n'ai trouvé aucune référence à la souveraineté de Dieu, pas une seule. La raison en est claire. Ils ne croient pas qu'il soit souverain. Jésus, selon l'enseignement de la parole de foi, n'a aucune autorité sur la terre. L'autorité était déléguée à l'Église. Kenneth Hagin affirme dans son livre « L'autorité du croyant », qui, en passant, contient de longs paragraphes pris dans d'autres livres, écrits par d'autres auteurs, et il affirme les avoir reçus de Dieu. Ce n'est tout simplement pas vrai. Mais il dit que Dieu n'a aucune autorité. Il l'a délégué à l'Église. Nous contrôlons Dieu, et nous contrôlons Jésus. En outre, la théologie de la parole de foi enseigne que Dieu est lié par les lois spirituelles, qui gouvernent la santé et la prospérité. Dieu est lié par certaines lois, certains principes. Si nous disons les véritables paroles, ou si nous avons la bonne foi, Dieu est obligé de répondre tel que nous avons défini. Robert Hilton affirme que Dieu a déjà rempli son rôle dans sa relation d'alliance avec nous. Nous pouvons prendre des engagements ou faire des promesses, comme nous voulons. Je cite, déclare Hilton. Ainsi, nous pouvons dire à Dieu, sur l'autorité de sa parole, ce que nous souhaitons qu'il fasse. C'est correct. Vous pouvez même dire à Dieu le rôle que vous souhaitez qu'il ait dans l'alliance. Fin de citation. Dans le système de la parole de foi, Dieu n'est pas le Seigneur du tout. Il ne peut pas agir, à moins que nous lui permettions d'agir. Il dépend des instruments humains. Il est dépendant de la foi humaine. Et par-dessus tout, il doit agir en réponse aux paroles humaines, pour que son œuvre soit faite. Charles Capps a écrit, et je cite, « Vous avez le pouvoir de relâcher la capacité de Dieu. » En d'autres termes, Dieu est bloqué, jusqu'à ce que nous déclarions ses ordres. De l'autre côté, selon Charles Capps, la peur active le diable. Si vous succombez à la peur, même d'un petit doute, dit-il, vous avez écarté Dieu. Vous avez immédiatement stoppé la capacité de Dieu. Peut-être était-il sur le point de se manifester, mais maintenant, vous avez établi la parole de Satan sur la terre, c'est-à-dire que ça ne s'arrange pas. Les choses empirent. Vous avez établi sa parole. Fin de citation. Voici ce qu'il dit. Si vous avez peur, vous permettez au diable d'œuvrer. Si vous avez la foi, vous permettez à Dieu d'œuvrer. Ainsi, si vous avez peur de Satan, vous liez les mains de Dieu et libérez Satan. Il faut dire que vous êtes une personne puissante. Selon Charles Capps, dans son livre « La langue, une force créatrice », Dieu aurait cédé sa souveraineté, y compris, écoutez ceci, son pouvoir créatif aux hommes. Capps a écrit « En août 1973, la parole de Dieu m'est parvenue en ces termes. C'est tout simplement effrayant. Et il s'agit d'une citation. C'est le Seigneur qui s'adresse à Charles Capps. Je cite, « Si les hommes me croyaient, les longues prières ne seraient pas nécessaires. Il suffirait de déclarer la parole pour manifester ce que vous désirez. Mon pouvoir créatif a été donné aux hommes sous la forme de la parole. J'ai arrêté mon œuvre pour un moment. J'ai donné le livre de mon pouvoir créatif à l'homme. Jésus l'a déclaré quand il était sur terre, et comme cela fonctionnait à l'époque, ça devrait également marcher aujourd'hui. Cependant, elle doit être déclarée par le corps du Christ. L'homme doit se lever et avoir la domination sur le pouvoir du mal par ma parole. C'est mon plus grand désir que mon peuple crée une meilleure vie par la parole déclarée. Car ma parole n'a pas perdu sa puissance, juste parce qu'elle a été prononcée une fois. Elle est autant puissante aujourd'hui que lorsque je l'ai déclarée. Que la lumière soit. Mais pour que ma parole soit effective, les hommes doivent la déclarer, et le pouvoir créatif jaillira, accomplissant ce qui est déclaré dans la foi. Fin de citation. Simplement dit, en d'autres termes, ce qu'il établit est ceci. Vous avez la capacité, si vous avez assez de foi, de créer avec vos paroles. Vous voulez de l'argent? Créez-le avec vos paroles pleines de foi. Vous voulez la guérison? Créez-la par vos paroles remplies de foi. Je n'arrive pas à comprendre comment un de ces enseignants de la parole de foi pourrait avoir 5 millions de dollars de dettes. Ne pouvait-il pas les appeler à l'existence? Et d'un autre côté, pourquoi prier si vos paroles ont tant de puissance créatrice? Pourquoi prier? Qu'y a-t-il à demander? Vous venez vraiment en niant que vous avez besoin de rechercher la face de Dieu. Après tout, Dieu vous a donné la souveraineté. Il vous a transmis son pouvoir créatif. Sa parole ne lui appartient plus. C'était d'abord sa parole. Maintenant, c'est la vôtre. Appelez à l'existence. Vous n'avez pas besoin de lui. Vous êtes souverain. Un autre de leurs enseignants, Norvell Hayes, affirme qu'il vaut mieux parler à son chéquier, parler à sa maladie ou parler à toute situation difficile que vous traversez, que de parler à Dieu à propos de cela. Je cite, « Vous n'êtes pas supposé parler de cela à Jésus. Vous êtes supposé parler directement à la montagne, au nom de Jésus, quelle que soit la montagne qui est dans votre vie. Arrêtez d'en parler à Jésus. Arrêtez d'en parler à quelqu'un d'autre. Adressez-vous à la montagne elle-même, au nom de Jésus. Ne dites pas, « Ô Dieu, aide-moi, retire cette maladie de moi. » Dites plutôt, « Grippe, je ne te laisserai pas venir dans mon corps. Quitte-moi au nom de Jésus. Mon nez, je te dis, arrête de couler. Tout, je te demande de partir au nom de Jésus. Dites, « Cancer, tu ne peux pas me tuer. Je ne mourrai jamais de cancer, au nom de Jésus. » Je le cite ensuite. « Avez-vous une montagne financière dans votre vie ? Commencez à parler à l'argent. Dites à votre chéquier de s'aligner à la parole de Dieu. Parlez à votre entreprise. Commandez à vos clients de venir dans votre entreprise et d'y dépenser leur argent. Parlez à la montagne. Cela vous amuse, et je le comprends. Mais beaucoup de personnes n'en rient pas. Elles y croient. Norvell Hayes a plusieurs publications, et l'une d'elles est intitulée « Mettez vos anges au travail », ce qui signifie que vous n'êtes pas seulement souverain sur ce monde, mais aussi dans le monde angélique. Hayes enseigne également que le croyant peut exercer sa domination sur les anges. Je cite, « Puisque les anges sont des esprits au service des chrétiens pour nous rendre ministère, raisonne-t-il, nous pouvons apprendre comment les mettre en action en notre faveur. Nous, chrétiens, devons garder ces créatures angéliques occupées. Nous devons les faire travailler pour nous tout le temps. » Fin de citation. Alors, je pense que c'est juste de dire que la théologie de la parole de foi renie la souveraineté de Dieu, enlève le besoin de prier Dieu pour tout secours en cas de besoin ou de fardeau, et donne aux chrétiens lui-même la domination et le pouvoir créatif. Selon mon jugement, c'est de l'orgueil humain, dans sa plus laide expression. Pire, c'est de l'idolâtrie, et la nouvelle idole est l'ego, et Dieu est détrôné. Pour davantage suivre ce faux concept de Dieu, le mouvement de la parole de foi enseigne qu'en devenant chrétien, on intègre la race des petits dieux. Kenneth Copeland a explicitement établi ce que plusieurs enseignants de la parole de foi expriment de manière subtile. Voici ce que Kenneth Copeland écrit. « Il a imparti en vous, quand vous êtes né de nouveau. » Pierre l'a dit tout aussi simplement. Il a dit, « Nous sommes participants de la nature divine. Cette nature est la vie éternelle dans sa perfection absolue, et elle a été impartie, injectée dans votre homme spirituel, et vous l'avez, impartie en vous par Dieu. » De la même manière que vous avez transmis la nature humaine à votre enfant. Cet enfant n'est pas né baleine. Il est né humain, n'est-ce pas vrai? Eh bien, à présent, Vous n'avez pas un humain, n'est-ce pas? Vous en êtes un. Et vous n'avez pas un Dieu en vous. Vous en êtes un. Fin de citation. Copland enseigne qu'Adam a été créé dans la classe de Dieu, c'est-à-dire qu'Adam était une reproduction de Dieu. Écoutez ce qu'il dit, je cite. « Il n'était pas subordonné à Dieu. Adam marchait comme Dieu. Ce qu'il disait se réalisait, ce qu'il faisait comptait. Et quand il a plié son genou devant Satan, il a placé Satan au-dessus de lui. Dieu ne pouvait rien faire à propos de ça, car un Dieu avait placé Satan à cette place. Adam, rappelez-vous, a été créé dans la classe de Dieu, mais quand il a commis la haute trahison, il est tombé en dessous de la classe de Dieu. » Fin de citation. À la croix, selon Copland, Jésus a gagné le droit pour les croyants de naître de nouveau dans la classe de Dieu. Adam a été créé, non comme subordonné de Dieu, mais comme Dieu. Il a perdu cette position et, en Christ, nous sommes remis à la classe de Dieu. En le disant, Copland croit que Jésus, je cite, a gagné la guérison, il a gagné la délivrance, il a gagné la prospérité financière, la prospérité mentale, la prospérité physique, la prospérité familiale. Il a dit qu'il subviendrait à mes besoins selon ses richesses, en gloire, par Jésus-Christ. Et je marche en disant, oui, mes besoins sont satisfaits selon ses richesses en gloire par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je convoite le compteur des besoins. Je convoite le « je suis ». Alléluia. Et je le dis avec respect pour ne pas trop vous choquer. Mais je le dis quand même. Quand je lis ma Bible, où Dieu dit « je suis », je souris. Et je dis « oui, moi aussi, je suis ». Fin de citation. C'est tellement blasphématoire que cela devrait faire frémir chaque véritable enfant de Dieu. Cependant, c'est typique de l'enseignement de la parole de la foi. Appeler un être humain « je suis », Yahweh, l'Éternel, le Dieu souverain, Sauveur, constitue un blasphème. Face à la critique pour certaines de ses affirmations à propos de la divinité du croyant, Copland est apparu avec Paul et Jan Kruch dans le programme « Praise the Lord » sur Trinity Broadcasting Network pour défendre son enseignement. Voici la conversation qui s'en est suivie. Paul Kruch disait « Dieu ne marque pas de différence entre lui et nous. » Kenneth Copeland disait « Jamais, jamais, vous ne pouvez jamais le faire dans une relation d'alliance. » Paul Kruch « Savez-vous quelle autre chose a été réglée ce soir ? Cet appel et ce cri, et la controverse engendrée par le diable pour tenter de diviser le corps de Christ. Que nous sommes des dieux. Je suis un petit dieu. Kenneth Copeland. Oui, oui. Jan Kruch. Absolument. Il nous a donné son nom. Kenneth Copeland. La raison pour laquelle nous sommes. Paul Kruch. J'ai son nom. Je suis un avec lui. Je suis dans une relation d'alliance. Je suis un petit dieu. Que les critiques disparaissent. Kenneth Copeland. Vous êtes tout ce qu'il est. Paul Kruch. Oui. Paul Kruch, l'hôte principal, est le directeur de Trinity Broadcasting Network et, par conséquent, l'une des personnes les plus influentes de la radiodiffusion religieuse de nos jours, a réaffirmé de manière répétitive son engagement à la doctrine de petit Dieu de la parole de foi. Pour le citer, « Cette nouvelle création qui se manifeste à la nouvelle naissance est créée à son image. Elle est liée à Jésus-Christ. Est-ce correct ?» Ainsi, dans ce sens, je l'ai vu, il y a plusieurs années, quelle que soit cette union qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il dit « Père, je veux qu'il soit un avec moi, tout comme toi et moi sommes un en nous. » Ainsi, apparemment, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre cette union de la Trinité et nous y introduit. Nous devenons une partie de la Trinité de ce point de vue. D'autres enseignants de la parole de foi ont réitéré l'hérésie. Charles Capps écrit « J'ai entendu des gens dire que ceux qui confessent la parole de Dieu et répète sans cesse les promesses de Dieu, essaie d'agir comme Dieu. Oui, c'est exactement ce que nous essayons de faire. Agir comme Dieu le ferait dans une situation similaire. Qu'a-t-il fait? Il a déclaré la chose désirée. » Earl Polk, un autre d'entre eux, a écrit, et je cite, « Tant que nous ne comprendrons pas que nous sommes des petits dieux, et que nous ne commencerons pas à agir comme de petits dieux, nous ne pourrons pas manifester le royaume de Dieu. » Fin de citation. Robert Hilton appelle aussi le croyant, je cite, « une créature divine, conçue pour être comme un dieu dans ce monde. » Un autre de ses prédicateurs populaires, Maurice Cerullo, a eu cette conversation à la télévision avec Dwight Thompson. « Vous le voyez fréquemment à la télévision. Maurice Cérullo, voyez-vous, lorsque Dieu nous a créés à son image, il ne nous a mis aucune ficelle, n'est-ce pas? Il n'a pas fait de nous des marionnettes. Dwight Thompson, non, pas du tout. Maurice Cérullo, il n'a pas dit, Maurice, lève la main, lève-t-on, vous savez, et voici nous y sommes. Nous n'avons absolument aucun contrôle sur nous. Dwight Thompson, non, non, non. Maurice Cérullo, il a créé Dwight Thompson, il a créé Maurice Cérullo, un petit dieu en miniature, bien sûr. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Qu'est-ce que la piété? Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité, il nous a donné la domination. Il ne nous a pas dit d'agir comme un homme, il nous a dit d'agir comme un dieu. Fin de citation. Benny Hinn ajoute, je cite, « La nouvelle création est créée à l'image de Dieu, dans la justice et la véritable sainteté. L'homme nouveau est à l'image de Dieu, comme Dieu, semblable à Dieu, complet en Jésus-Christ. La nouvelle création est juste comme Dieu. Puis-je dire que j'aime ça? Vous êtes un petit Dieu sur terre, qui court ça et là. » Puis Hinn a répondu à la critique d'un tel enseignement de cette manière. Il a dit, « Maintenant, êtes-vous prêt pour une véritable connaissance révélée? Eh bien, regardez à présent ceci. Il a mis de côté sa forme divine pour qu'un jour je sois revêtu de cette forme divine sur la terre. » Kenneth Hagin a un enseignement. Beaucoup de gens ont du mal avec cet enseignement, et pourtant c'est la vérité absolue. Kenneth Copeland a un enseignement. Plusieurs chrétiens le détruisent, mais c'est la vérité divine. Hagin et Copeland disent, « Vous êtes Dieu, vous êtes des dieux. Oh, je ne peux pas être Dieu. Arrêtez. Apportons de l'équilibre à cet enseignement. L'équilibre est enseigné par Hagin. C'est ceux qui le répètent qui sèment la confusion. L'équilibre est enseigné par Copeland, qui est mon cher ami, mais c'est ceux qui répètent ce qu'il dit qui y mettent de la confusion. Vous voyez, frère, quand Jésus était sur la terre, la Bible dit, il s'est d'abord dépouillé de sa forme divine. Il est le Dieu infini. Il est devenu un homme, afin que nous les hommes puissions devenir comme lui. » Fin de citation. Vous noterez qu'ils atterrissent sur les versets qui indiquent que nous entrons en possession et participons à certaines choses qui sont variées à propos de Dieu, mais les amènent à l'extrême, où nous devenons Dieu. Nous participons à l'amour de Dieu, n'est-ce pas, et à sa justice, et nous nous réjouissons de la grâce de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Hagin dit, et je cite, « Si nous parvenions à nous réveiller et réalisions qui nous sommes, nous commencerions à faire l'œuvre que nous sommes supposés faire, parce que l'Église n'a pas encore réalisé qu'ils sont Christ. Voilà qui ils sont Christ. » Maintenant, nous ne sommes plus seulement Dieu, nous sommes Christ. C'est ainsi que les prédicateurs de la parole de foi se sont accordés pour déposer Dieu et nous mettre à sa place. À partir de cette erreur fondamentale découlent toutes ces faussetés. Pourquoi enseigne-t-il que la santé et la prospérité constituent des droits divins destinés à tout chrétien? Parce que nous sommes Dieu, nous le méritons, d'accord? Si je suis Dieu, alors je mérite la prospérité. Pourquoi enseigne-t-il que les paroles du croyant ont une force créatrice et déterminante? Parce que dans leur système, nous sommes Dieu, et Dieu a été capable d'appeler les choses à l'existence, et nous sommes Dieu, donc nous pouvons appeler les choses à l'existence. Ils ont intégré le mensonge originel de Satan. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. » C'était un mensonge. L'homme ne sera jamais comme Dieu. Nous serons des hommes glorifiés, pas Dieu. L'idée que l'homme peut être comme Dieu est, et sera toujours, le mensonge satanique. C'est le même mensonge qui, écoutez ceci, a renversé le diable lui-même. Il disait, « Je serai comme Dieu. » Voici la preuve par deux passages qui sont souvent utilisés par les prédicateurs de la parole de foi pour soutenir leur enseignement. Écoutez bien ceci. En voici un exemple. Dans Psaume 82:6, Dieu dit des chefs de la terre, « Vous êtes des dieux. » Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il cite cela tout le temps. Psaume 82:6. Vous pourriez vouloir chercher ce passage, et nous terminerons avec les deux passages qu'ils utilisent. Et nous reprendrons la semaine prochaine. Psaume 82:6. Dieu dit à ceux qui dirigent la terre, « Vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Alors ils disent, « Vous voyez, Dieu dit que nous sommes des dieux. » Une simple lecture des psaumes, toutefois, d'une chose très très différente de cela. Si vous regardez les psaumes, il apparaît que ces paroles étaient déclarées au chef impie qui était sur le point d'être jugé. Des chefs sur le point d'être jugés. Regardez le verset 7. Ils ne veulent jamais lire le verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Qu'est-ce que c'est? Il y a une note d'ironie. Dieu regarde à ses chefs qui rendent des jugements injustes. Revenons au verset 2. Ils ont jugé avec iniquité. Ils ont eu égard aux méchants. Vous avez pratiqué l'injustice au lieu de la justice. Et il dit, regardez de vos propres yeux. Vous pensez que vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme quoi? Des hommes? Comment pouvez-vous sortir ce sixième verset de son contexte et en faire l'affirmation qu'un chrétien peut devenir un dieu? Loin de confirmer leur divinité, Dieu les condamne pour avoir pensé qu'ils étaient des dieux. Les enseignants de la parole de foi vont se retourner immédiatement vers leur autre passage favori. Jean 10, 33 et 34. Devinez quoi? C'est l'endroit où Jésus cite le psaume 82:6. Donc, si vous comprenez psaume 82:6, vous n'aurez aucun problème à comprendre Jean 10. Les Juifs lui dirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Ne manquez pas de regarder le but pour lequel Jésus choisit d'utiliser ce verset. Cela devait être un verset très familier pour les scribes et les pharisiens. Ils auraient dû comprendre que ce verset était une condamnation des chefs méchants. Et Jésus fait simplement l'écho à l'ironie du psaume original. Walter Martin a écrit un excellent commentaire à ce sujet. Il dit, « Jésus se moque des gens comme s'il leur disait, « Vous pensez tous que vous êtes des dieux. Qu'est-ce qu'un dieu de plus parmi vous ? Oh, l'ironie ! Vous voulez me lapider parce que je me proclame être dieu ? Vous proclamez la même chose. Où est le problème s'il y a un dieu de plus ? Le sarcasme. Walter Martin affirme, l'ironie est utilisée pour provoquer, et non pour nous informer. Elle ne constitue pas une base pour l'édification d'une doctrine. Ensuite, il affirme, il est également pertinent pour la compréhension de Jean 10 que nous nous souvenions que Satan est appelé le dieu de ce monde par l'autorité de Jésus-Christ, et Paul renforce l'idée en l'appelant le dieu de ce siècle. Nous pouvons faire de n'importe quoi un dieu, l'argent, le pouvoir, le statut, la position, le sexe, le patriotisme, la famille, ou, comme dans le cas de Lucifer, un ange. Nous pouvons être notre propre Dieu. Toutefois, appeler une chose divinité, l'adorer ou la considérer comme divine, ne signifie pas qu'elle soit vraiment par nature et par essence une divinité. Jésus ne les appelle pas Dieu au sens propre du terme. Il dit, vous vous êtes érigé vous-même en Dieu. Exactement comme les gens du psaume 82 qui ont ressenti la colère du jugement de Dieu. Dieu a dit aux Israélites rebelles dans Ésaïe 29:16 « Quelle perversité est la vôtre ? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile ?» Ésaïe 29:16 « L'argile peut-elle se penser égale au potier ? » D'après le mouvement de la parole de foi, quelle est la réponse ? Oui, sinon supérieure. Ils ont le mauvais Dieu. Eh bien, ils ont certaines choses qui ne vont pas. Et je vous en parlerai dimanche prochain en soirée, et nous commencerons par le fait qu'ils ont le mauvais Jésus. Père, alors que nous parlons de ces choses, nous sommes presque incrédules, pas parce que nous ne sommes pas habitués à l'erreur, mais nous ne sommes pas habitués à l'erreur qui est reçue par des gens qui se disent appartenir à la vérité. Nous sommes choqués que tant de chrétiens, qui affirment leur croyance, s'identifient aux terribles hérésies de ce mouvement. Nous ressentons que la chrétienté évangélique est devenue indéfinissable. Elle est tellement amorphe, elle n'a pas de frontières, elle est inexplicable. Nous avons l'impression qu'il faut tout renverser et recommencer. Seigneur, plusieurs sont tellement embrouillés, tant de personnes sont égarées. Nous prions simplement que, d'une manière ou d'une autre, ta vérité leur parvienne, et qu'ils puissent t'adorer comme le Dieu souverain, sans te transformer en vallée. Mais qu'ils tombent sur leur face en ta présence et plaident pour le privilège de souffrir, si besoin est, pour toi. La maladie, la pauvreté ou la mort, si tel est ton désir. Qu'ils puissent, comme l'apôtre Paul, se réjouir de souffrir. Qu'ils soient reconnaissants pour les persécutions, les détresses, la privation, si c'est ta volonté, parce que tu es souverain. Père, aide-nous à savoir que nous sommes pour le mieux des hommes et rien de plus. des hommes qui ont été touchés par la grâce transformatrice de Christ, des hommes en qui le Saint-Esprit vit, mais nous sommes des hommes et rien d'autre, des hommes rachetés, et en tant que hommes, nous devons être humbles devant Dieu. Nous sommes tristes, Père, que tu aies été tellement déshonoré, si humilié, qu'un reproche si terrible soit porté sur ton saint nom de la part de ceux qui enseignent et croient des choses si folles. Et nous te demandons que tu sois exalté et mette un stop à cet enseignement dégradant. Au nom du Sauveur, nous te le demandons. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.